Alors, si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans le psaume 99, le verset 5. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Alors, quand on lit « prosternez-vous », c'est vraiment l'idée de l'adoration. Alors, le titre du sermon que j'avais donné, c'était « Adorons le Seigneur ». On avait regardé qu'on divisait le sujet en trois parties. La première, c'était l'adoration, sa prééminence. Qu'est-ce qu'on veut dire par la prééminence? La prééminence, c'est d'avoir la première place. Dans notre vie, comme chrétien, l'adoration devrait avoir la place prééminente, le maximum. On ne peut pas aller plus haut que ça. C'est ça notre devoir comme chrétien. Alors, ce qu'on va faire, pour se remettre un petit peu dans le bateau, on va réviser rapidement ce qu'on avait regardé et on va passer, parce que j'en avais vu seulement un point sur les trois, on va regarder les deux autres points ensuite. Alors, je vous avais mentionné une phrase du pasteur A.W. Tozer, qui est un Américain, qui a fait plusieurs ouvrages, des livres sur le sujet de l'adoration. Et il avait dit la chose suivante. L'adoration authentique est la pierre précieuse manquante dans le christianisme contemporain. Autrement dit, il est en train de dire que c'était quelque chose qui était pas nécessairement complètement absent, mais qui était un petit peu peut-être négligé. Ensuite, il dit « La véritable adoration est un art oublié de nos jours. Souvent, nos assemblées sont caractérisées par la cordialité, l'humour, l'affabilité et le zèle. Cependant, nous trouvons rarement des groupes où la présence de Dieu est profondément expérimentée par les assistants. » Alors, il disait qu'il y avait aujourd'hui un substitut pour l'adoration, puis que c'était la frénésie de l'action. Il dit, aujourd'hui, on est dans un tourbillon où on fait beaucoup d'actions, mais qu'on n'a pas nécessairement l'esprit centré sur l'adoration à Dieu. Je pense qu'il touche un point là sérieux. Alors, bien sûr, on avait regardé un petit peu aussi les versets où ça parle de Marthe et Marie. On se souvient que Marthe était une femme qui aimait servir et Jésus était allé dans leur maison. Marie, elle avait décidé de s'asseoir auprès du Seigneur et de l'écouter. Marthe, elle servait puis a dit au Seigneur, pourquoi tu ne dis pas à ma sœur de venir m'aider pour le service? Le Seigneur, il dit, elle a choisi la meilleure part, elle ne le sera pas enlevée. Alors, qu'est-ce qu'elle avait choisi? Elle avait choisi de ne pas trop s'énerver dans l'action et de se concentrer sur ce qui était important. Écouter le Seigneur, adorer le Seigneur. On avait vu aussi une autre citation qui venait d'un petit magazine américain qui s'appelle Free Grace Broadcaster. Il y avait un numéro qui avait été consacré sur l'adoration. Et je vais vous lire juste la traduction, je ne vous le relirai pas en anglais. « La chose que le Seigneur désire par-dessus tout est l'adoration. Dieu désire l'obéissance des hommes, il désire le service, il désire la prière, il désire la louange et l'action de grâce, mais son désir suprême de la part des hommes est l'adoration. Comme il dit dans Jean 4, 24, il cherche des adorateurs. » Alors, on va regarder pourquoi l'adoration se devrait d'être prééminente dans notre vie, autrement dit, d'avoir la première place. Et on avait regardé la première raison, c'était à cause des perfections infinies du Seigneur. Qu'est-ce qu'on entend par une perfection? C'est un attribut. Quand on regarde normalement dans les livres de théologie, on va trouver, le nombre peut varier, là, dépendamment des auteurs, mais ça tourne autour de 25, quoi, à peu près. Les attributs de Dieu. On sait que les attributs de Dieu, ce sont ses caractéristiques, sa façon d'être, et tout cela, c'est infini. Quand on parle de bonté, nous, on en connaît des gens. J'en ai connu des gens dans ma vie qui étaient bons, mais c'est limité. Dieu, sa bonté est illimitée, infinie. Ça veut dire que peu importe combien d'années que je resterai dans le ciel, je n'aurai jamais atteint le fond de la bonté de Dieu. Je vais en découvrir, je vais en découvrir encore, je vais en redécouvrir encore, et j'atteindrai jamais le fond. Ça, c'est pour la bonté, la même chose pour l'amour, la même chose pour la miséricorde, la même chose pour la sagesse, la même chose pour la sainteté, la même chose pour l'ensemble de ses attributs. Là, pourquoi on se doit d'adorer Dieu? C'est parce qu'il est grand. Il est glorieusement grand, majeste, plein de force, de puissance, de majesté, bien au-delà de ce que nous sommes capables de concevoir. Même ceux qui sont les plus savants dans les Écritures, actuellement, disons, sur la terre, qu'ils ne croient pas qu'ils connaissent Dieu à la perfection. Personne d'entre nous ne le connaît à la perfection actuellement, et personne d'entre nous ne le connaîtra jamais non plus à la perfection, parce que, par définition, quelque chose qui est infini, c'est quelque chose qu'on n'atteindra jamais le fond. On va juste relire le verset 3 du psaume 145, mais c'est un verset que c'est un bout de chapitre des psaumes que j'aime beaucoup. Psaume 145, le verset 3. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Je sais pas, j'ai déjà donné l'idée de quelque chose qui est une sonde. On sait, disons que je veux mesurer la profondeur d'un puits. Je prends une corde, je mets un poids au bout de la corde, et là, je laisse descendre la corde. Puis à un moment donné, disons que je prends le puits à 50 pieds, à un moment donné, quand je vais atteindre le fond, ça va faire « poc » et je vais pouvoir mesurer la profondeur. Mais Dieu, sa profondeur, comment je laisserai descendre le fil pendant toute l'éternité, 1000 ans, 10 000 ans, 1 million d'années, il n'y en a pas de fond. Insondable dans chacun de ses attributs. Là, pourquoi on se doit de l'adorer? Justement parce qu'il est infiniment grand. On avait regardé quelques attributs, son immuabilité, sa vérité, son amour, sa bonté, sa sainteté, son éternité, son immensité, son omniprésence. Tu sais, des fois, on ne s'arrête pas à penser à ça. Dieu est ici, puis Dieu est en Chine, puis Dieu est aux Indes, puis Dieu est en Afrique, puis Dieu est à Haïti, et partout. Il est au Brésil, il est partout. En même temps, sur toute la surface de la terre et dans tout l'univers au complet, il est présent partout. Alors souvent, dans notre comportement, on n'aura pas parfois le même comportement dans l'église locale le dimanche qu'on a chez nous. C'est vrai ça. Parce que chez nous, des fois, on se laisse aller un peu, on glisse un peu, on a des petits manquements, des fois des gros manquements. Mais une chose qu'on oublie, Dieu est présent ici ce matin, mais Dieu est présent toujours dans nos vies, peu importe où on est, peu importe ce qu'on fait, Dieu est là et il voit ce qu'on fait. L'omnipotence, on sait que ça veut dire la toute-puissance de Dieu. Personne n'est capable de concevoir jusqu'à quel point Dieu est puissant. Imaginez juste la création. Il dit et la chose arrive. Autrement dit, il a désiré la création dans son ensemble, dans son immensité. On a parlé de millions d'années, des galaxies. Il dit, à partir du néant, et la chose arrive. Ça nous donne-tu une petite idée de sa puissance? Et ensuite, on a la vérité. Dieu est vérité, il ne ment jamais. On n'est pas habitué à ça, nous. On est entouré de mensonges. Et on a tellement peur d'acheter quoi que ce soit, on a toujours peur qu'un vendeur nous en passe une petite vite. Mais Dieu ne ment jamais, 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 jamais. C'est-tu plaisant? Tu lis les Écritures, c'est certain qu'il ne comptera pas de mensonges. Et ensuite, il est miséricordieux, il a pitié de notre misère. Miséricordieux, ça veut dire ça. Dieu a pitié de notre misère. Ensuite, sa grâce, il nous donne ce que nous ne méritons pas. Nous mériterions l'inverse. Et il nous donne des choses, la justice. Je vais juste vous revenir avec l'histoire de la grandeur du Seigneur dans le psaume 147. On l'avait vu la dernière fois, mais je reviens. Tellement nécessaire. de réviser ces choses-là. Dans le psaume 147, les versets 4 et 5, il dit, il parle du Seigneur, « Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. » Alors, les étoiles, pour le Seigneur, ils ont des noms. Moi, comment je les regarde, tout ce que je vois, c'est des choses qui brillent, mais je ne suis pas capable de leur donner des noms, oubliez ça, là. Et surtout pas si je prends en considération leur nombre. Il dit dans le verset 5, « Notre Seigneur est grand. » est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. » Imaginez aussi quelqu'un dont l'intelligence n'a pas de limite. Vous avez sûrement déjà rencontré des êtres intelligents dans votre vie, plus intelligents. On sent quand quelqu'un est plus intelligent que nous. Et des fois, c'est vraiment beaucoup, là. Et on est toujours un petit peu intimidé devant quelqu'un qui est beaucoup, très intelligent. Mais là, imaginez-vous, Dieu, son intelligence n'a aucune limite. C'est quelque chose. Pour en revenir tantôt au nombre des étoiles, parce que s'il leur donne des noms pour qu'on puisse apprécier, il faut qu'on sache combien il y en a. Et ça, c'est d'après les estimations actuelles, d'après les connaissances actuelles de la science. Les astronomes modernes évaluent qu'une seule galaxie contient plus de 100 milliards d'étoiles. Une galaxie, 100 milliards d'étoiles. Juste pour vous revenir sur le terme milliard, un milliard, c'est 1000 millions. Donc, 100 milliards d'étoiles, toutes leur donner des noms, en soi, c'est déjà... Mais c'est pas tout. Combien de galaxies? Une galaxie, 100 milliards d'étoiles, mais combien il y en a de galaxies? 10 milliards de galaxies. On imagine-tu la grandeur de tout cela? C'est tellement grand, ça dépasse notre capacité. Moi, dans les mathématiques, je n'étais pas le champion. Mais je veux dire, quand on parle de chiffres aussi grands que ça, là, on parle de 100 milliards dans une galaxie et on parle de 10 milliards de galaxies. Pfiou! Il leur donne à toutes des noms. Et on est loin de vider le sujet de la grandeur du Seigneur. Pourquoi on se doit de l'adorer? Parce que quand on vient ensemble le dimanche pour adorer, la fonction de l'assemblée, la fonction du sermon, la fonction des chants, c'est d'amener notre esprit à la contemplation de notre grand Dieu, de ce qu'il est. C'est ça que ça devrait nous emmener. Si on passe notre temps dans l'une et qu'on ressasse nos soucis, qu'on sort d'ici, on n'a rien compris, on n'a rien... S'il y a une chose que j'ai appris, on a eu un cours avec le docteur Joseph Pipock à Saint-Jérôme, il y a quelque temps, sur l'adoration. La chose que j'ai retenue, c'est qu'il disait que l'adoration, c'est l'action la plus élevée pour un chrétien. L'adoration commune. Autrement dit, ce qu'on est en train de faire ce matin, pour un chrétien, c'est l'action la plus élevée, la plus exaltée que tu peux faire pour le Seigneur. On peut adorer chez nous, le Seigneur aime ça. Mais l'adoration collective, il y a quelque chose d'encore plus grand parce qu'on est ensemble et notre but est de lever les yeux et de regarder le Seigneur avec nos yeux spirituels et de découvrir toute sa richesse, toute sa beauté, toute sa sagesse, toute son intelligence, toute sa grâce, tout son amour et tout cela. C'est ça que c'est supposé de faire un culte, faire lever notre âme vers lui et devenir en adoration, en exaltation, en contemplation. Alors, c'est ça que ça devrait faire. Pour démontrer que le Seigneur, pourquoi c'était prééminent aussi? On a dit que c'était à cause de ses attributs. La deuxième raison, c'était que parce que Dieu l'a commandé. Dieu a le droit de nous commander des choses. Moi, personnellement, des commandements, je ne suis pas trop fort là-dessus. Quand j'étais dans l'armée, à un moment donné, t'es obligé là, de plier puis de reconnaître que quelqu'un a le droit de te donner des ordres. Dans l'armée, c'est le principe fondamental, obéir aux ordres. Pas fort là-dessus, pour être bien franc. Là. J'aime pas ça que quelqu'un me donne des ordres. Pas dans les êtres humains, en tout cas. Dieu, j'ai pas trop de problèmes. Aucun problème même. Il a le droit, parce qu'il est parfait, et ce qu'il nous demande, c'est toujours juste, agréable, sain, et plein de bonté. Dans Jean 4, il nous dit, 21 à 24, Jésus lui dit, il parle ici de la femme qu'il a rencontrée sur le bord du puits et qui a eu une conversation avec la Samaritaine. Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient que vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Vous, vous adorez, mais vous ne savez quoi. Nous, nous savons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. » Il est en train de lui rappeler que le salut venait des Juifs. Il est venu par Jésus. Jésus était un Juif. Mais l'heure vient, dans le verset 23, « Et elle est maintenant que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Et la phrase importante, c'est la fin du verset 23, « Car aussi le Père en cherche de tels qu'il l'adore. » Le mot « chercher », c'est comme le Seigneur veut ça de nous, qu'on l'adore, qu'on prenne conscience de sa grandeur, de sa perfection, de sa lumière, de sa sainteté, etc. Et dans le verset 24, il dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Alors, troisième idée, pourquoi on se doit de l'adorer. La première, c'est les attributs de Dieu, ses perfections. La deuxième, c'est parce qu'il nous l'a commandé. Et la troisième, c'est parce que c'est notre premier devoir comme chrétien. Alors, après avoir vu ça, on est prêt à tomber au deuxième point. L'adoration, c'est prérequis. Maintenant, est-ce que n'importe qui peut adorer Dieu? Non. La réponse est non. On doit adorer Dieu par le Saint-Esprit. Comment peut-on adorer Dieu par le Saint-Esprit s'il n'habite pas en nous? Alors, on prend Philippiens, chapitre 3, verset 3. On se doit d'adorer par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Alors, ça dit, « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettions point notre confiance en la chair. » Alors, il y a un principe dans Philippiens 3:3 qui est important, qui nous est dit, c'est quand on adore, on se doit d'adorer par l'instrumentalité de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Parce que lui, c'est lui qui a la puissance d'être capable de stimuler notre âme et d'ouvrir nos yeux spirituels à la grandeur de Dieu. Parce que nous, souvent, on peut être manquant ce côté-là. C'est pour ça qu'on a besoin, quand on prie pour l'onction du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit a la puissance de venir en nous et de nous ouvrir les yeux et de nous faire découvrir les grandeurs de Dieu. Alors aussi, dans Romains chapitre 8, verset 26, ça nous dit, « Et même aussi l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses, car nous ne savons ce que nous devons demander pour prier comme il faut. » Il est en train de nous dire, le verset, qu'on ne sait pas prier, qu'on a besoin d'aide. Et quand tu prends conscience de ça la première fois, des fois, tu sais qu'il faut que tu pries, mais tu n'as pas le goût de prier. Ça vous arrive-tu, ça? Ça m'arrive, moi. Je sais qu'il faut que je prie, mais on dirait que j'ai l'esprit ailleurs, ça ne me tente pas. Alors, qu'est-ce que je dois faire dans ce temps-là? Demander au Saint-Esprit de m'aider. Parce que c'est ce qu'il dit dans le Romains 8, 26, « Car nous ne savons ce que nous devons demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qui ne peuvent s'exprimer. » Autrement dit, quand on adore, ou quand on prie, puis qu'on sait qu'on n'est pas dedans, là, ben il faut appeler celui qui peut nous sortir de notre torpeur et de nous emmener dans la découverte des choses de Dieu. Et autre chose, on se doit de mortifier le péché aussi par l'Esprit. On avait fait une série sur la mortification du péché, c'était basé sur Romains 8, 13, verset qui nous dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Alors, dans les trois versets, s'il y a quelque chose qui revient tout le temps, c'est prier par l'Esprit, adorer par l'Esprit, mortifier le péché par l'Esprit. Alors, la présence et la nécessité de l'Esprit pour la victoire, dans peu importe ce qu'on fait, que ce soit adorer, prier ou mortifier le péché, c'est absolument nécessaire. Alors, nos actions les plus efficaces sont celles que nous faisons en implorant l'aide du Saint-Esprit. Si on a de la misère à prier, implorons le Saint-Esprit. Si on a de la misère à adorer, implorons le Saint-Esprit. Si on a de la misère à mortifier le péché, implorons le Saint-Esprit à notre aide. Pour bien adorer, nos cœurs doivent regarder en haut et crier « Enseigne-moi, ô Saint-Esprit, à adorer. » On fait tout ça des fois. Chez nous, quand on est tout seul, là, on veut adorer, puis on sent qu'on n'est peut-être pas tout à fait dedans. Est-ce qu'on pourrait faire cette prière-là? « Enseigne-moi, ô Saint-Esprit, à adorer. » Selon vous, est-ce qu'il va le faire? Ben oui. Mais pourquoi on ne le fait pas plus souvent de bord? On se doit aussi... Alors, la première chose pour adorer, les prérequis, c'est d'adorer par l'Esprit de Dieu. Donc, ça implique qu'on soit régénéré, qu'on soit né de nouveau, qu'on soit des chrétiens. Autre chose, on se doit d'adorer avec un cœur brisé et contrit. On n'adore pas Dieu avec un esprit d'orgueil. On adore Dieu en prenant conscience de la profondeur de notre misère, la profondeur... De la grâce de Dieu qui nous a fait. Alors, le Saint-Esprit, c'est lui aussi qui nous rend conscients de notre état de pécheur et de notre corruption. Croyez-moi, quand vous demandez au Saint-Esprit de vous montrer la profondeur de votre corruption, il va le faire. Et c'est douloureux, parce qu'on se rend compte jusqu'à quel point on est pourri. Jusqu'à quel point on est versé, on aurait tendance à agir dans le péché. Alors, l'adoration véritable, ça révèle notre impureté absolue devant la sainteté, la sainte perfection de Dieu. On se souvient-tu du passage d'Ésaïe 6, lequel n'a pas déjà été? On a tous déjà entendu parler de ce fameux verset où on a un prophète qui était sanctifié, un homme de Dieu, un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Et il a eu la chance de voir le Seigneur. On va aller lire le passage. Vous allez voir que quand un homme voit sa misère devant la perfection et la sainteté de Dieu, quel effet que ça fait? Alors, ça dit l'année, Ésaïe 6, versets 1 à 7, l'année de la mort du roi Ozias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Et là, ça dit bien, écoutez, ça dit pas « ils parlaient l'un à l'autre ». Ils criaient l'un à l'autre. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint ». Saint l'Éternel des armées. Il était en extase. On ne peut pas lire ça du Saint, Saint, Saint. C'est une exclamation de découverte. Il voit la Dieu et il est complètement émerveillé. Dit toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. La maison se remplit de fumée. Regardez le verset 5. Là, on a affaire à un prophète sanctifié, un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Et quand il voit Dieu, il dit, « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Qu'est-ce que ça représentait, les petites pièces? Autrement dit, les souffrances que le Seigneur a subies étaient dans la pierre. Et quand il a pris les pincettes, il est allé toucher les lèvres, son iniquité est enlevée, C'est vraiment pour que le prophète prenne conscience que ses péchés, c'est Christ qui les a subis par un jugement que Dieu a envoyé. Autrement dit, le châtiment qui aurait dû être sur Isaïe, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a payé lui-même. Quand on adore, il faut prendre conscience de notre dépravité, de notre corruption. Quand on disait la deuxième raison, on disait on se doit d'adorer par l'Esprit de Dieu. Deuxième, on se doit d'adorer avec un cœur brisé et contrit. Il faut se rendre compte de qui on est. On se présente devant l'Éternel. Et quand on se présente devant lui, notre problème, c'est que souvent on oublie jusqu'à quel point il est grand et on oublie jusqu'à quel point on est pourri. Et il nous fait rentrer en sa présence avec amour. Et il nous dit que quand on croit en Jésus-Christ, on peut se présenter devant le trône de la grâce avec assurance. Alors, prendre conscience de sa dépravation est un pas important. Mais il faut en faire un autre si nous voulons que notre adoration plaise à Dieu. Je pourrais prendre conscience de la profondeur de ma corruption et ne pas adorer correctement pour autant. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que prendre conscience, c'est une affaire, mais se repentir, c'en est un autre. Je peux prendre conscience que je suis pourri, que je fais des manquements tous les jours sur bien des choses, mais si je ne fais pas par l'Esprit des demandes à Dieu pour me débarrasser de choses que je fais qui sont des péchés, alors se repentir sincèrement et mortifier le péché qui est encore présent dans nos cœurs, c'est une nécessité absolue. Nos vies, écoutez bien, nos vies se doivent d'être disciplinées, corrigées, purgées et purifiées, et cela dans tous les domaines de nos vies. Nos pensées, ça se peut-tu qu'on ait des pensées qui soient toutes pleines de péchés? Misère! Il suffit de s'examiner un petit peu, puis... Faudrait pas qu'on le dimanche matin que je puisse avoir le pouvoir de dire « Aimeriez-vous ça que je mette sur le mur toutes les pensées que vous avez eues cette semaine sur quelque sujet que ce soit, sur quelque personne que ce soit, on va projeter ça sur le mur. Seriez-vous prêt à ça? » Moi, je suis pas prêt, en tout cas. Je suis certain que vous non plus. Alors, il faut prendre conscience de notre misère. Il faut prendre conscience que Dieu a des choses à changer dans tous les domaines de nos vies. Nos pensées, nos paroles. Quand on examine nos paroles dans une journée, en as-tu des péchés dans nos paroles? La langue, c'est un des instruments que le malin utilise, notre âme corrompue utilise le plus pour exprimer. Il y en a beaucoup de péchés qui sortent de nos lèvres. Beaucoup. Alors ça doit être corrigé, nos pensées et, bien entendu, nos actions. Et une chose importante, nos omissions. Parce qu'une omission, c'est un péché aussi grave qu'un péché de commission. Quand on commet un péché, on dit on commet un péché. Mais omettre d'obéir à Dieu alors qu'il nous commande quelque chose de bien précis, il y en a plein de choses dans les Écritures où le Seigneur nous dit « tu dois faire ci, tu dois faire ça ». Si on faudrait qu'on les compte, il y en a des milliers. Mais chaque fois qu'on lit les Écritures, ou même pas, chaque fois qu'on ne met pas en action quelque chose que le Seigneur nous commande, c'est un péché aussi grave qu'un péché de commission. Ça, il faut prendre conscience de cela aussi, là. Alors, on se doit d'être corrigé sur toutes ces choses-là. Pensée, parole, action, omission, et même les Écritures vont plus loin que ça, nous disent qu'on commet des péchés dont on n'est même pas conscient nous-mêmes. Je pourrais vous en donner des exemples, on ne rentrera pas là-dedans matin, mais je pourrais vous donner des exemples qu'on voit même dans une église locale, des fois, où on peut dire des choses ou avoir un comportement ou quelque chose qui peut insulter quelqu'un d'autre, puis la personne qui l'a fait n'est même pas consciente que l'autre, et l'autre personne arrive chez eux, mais là, t'as-tu vu qu'elle fait ci, t'as-tu vu qu'elle pense ici, t'as-tu vu qu'elle dit. Alors, il y a eu quelque chose qui a été fait. Qui était une maladresse, qui était quelque chose de mal fait. Et on en fait des péchés comme ça, dont on n'est même pas conscient qu'on les a faits. Mais c'est pas à cause qu'on n'en est pas conscient que c'est pas un péché. C'est un péché aussi grave que les autres. Alors, troisième chose, donc, on se doit d'adorer par l'Esprit de Dieu, Deuxième chose, on se doit d'adorer avec un cœur contrit et brisé. Quand on se rend compte à quel point on est pourri, puis qu'on se présente devant la grandeur de Dieu et que soudainement, Dieu permet qu'on voit un petit peu sa grandeur. Bien entendu, on est porté à être petit dans nos culottes, comme on dit, et à vouloir se cacher en dessous du tapis parce qu'on se sent tellement indigne. Et c'est vraiment la bonne attitude à avoir devant le Seigneur. Et la troisième, on se doit d'adorer de façon incessante. Ceux qui ont assisté en bas au cours de théologie, on est porté souvent à croire que l'adoration, c'est ce qu'on fait ce matin. On est dans une église, on chante, on écoute des sermons, on a des échanges entre chrétiens avec les dons spirituels et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une assemblée dont on n'est pas nécessairement conscient. Mais c'est tellement important d'adorer en tout temps, en toute chose. Qu'est-ce qu'on avait vu dans la leçon en bas? On avait vu qu'il y avait deux formes d'adoration. Ce qu'on appelait l'adoration externe et l'adoration interne. Autrement dit, il n'y a pas une action, il n'y a rien dans nos vies, des choses qu'on ne peut pas adorer. Quand on pense, on peut adorer dans nos pensées. Quand on agit, on peut adorer dans nos actions. Autrement dit, il n'y a rien de la vie avec lesquelles on ne peut pas adorer. Je peux être devant mon ordinateur, essayer de faire le travail le mieux que je peux. Je peux être en train de faire la vaisselle. Je n'aime pas ça faire la vaisselle, disons. Puis, disons que vous dites, ben là, je vais faire la vaisselle avec amour, dans un esprit d'adoration. C'est un devoir que le Seigneur m'a donné. Je me plie au devoir et je le fais amoureusement. Au lieu de le faire en régiment, en chiolant, en critiquant. Mais, autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est que toutes les pensées, toutes les paroles qu'on dit, toutes les actions qu'on peut faire dans une journée, sont tous des moyens par lesquels on pourrait et on devrait adorer Dieu. Autrement dit, l'adoration, c'est pas une affaire qui se passe le dimanche matin entre 10h et midi. L'adoration, c'est toute notre vie, constamment, en tout temps, en toute chose. C'est ça la véritable adoration. Parce que si on se contente du dimanche matin, on n'est pas des chrétiens. Il faut que l'adoration, ça soit quelque chose qui se passe dans tous les niveaux, tous les niveaux de notre vie, et constamment, sans arrêt. Alors là, on voit-tu à quel point on a des manquements? Moi, je les vois en tout cas. Alors, on se doit d'adorer partout, en tout temps, pas seulement le dimanche. Toutes les heures d'une journée sont saintes, et tous les jours d'une vie sont saints. Marc 12, versets 28 à 30. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements? » Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et... tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Il n'est pas en train de dire ici que tu l'adores tout le temps, toutes choses, en tout monde, partout. Oui, aimer le Seigneur, ça l'implique pas juste le dimanche, ça l'implique tous les jours de ta vie. Alors, les éléments qui doivent être présents dans l'adoration pour qu'elle fonctionne correctement, l'amour. Parce qu'il vient de nous dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Puis il dit que c'est ça le plus important. C'est ça le premier commandement. Alors, si on adore et qu'il n'y a pas d'amour dans notre adoration, on manque le bateau. Autre élément, l'admiration. L'émerveillement. Est-ce que, quand on lit les Écritures chez nous, quand on fait un culte personnel, ou quand on fait un culte de couple, ou quand on fait un culte en église, est-ce que notre esprit est en adoration? Est-ce que notre esprit est en émerveillement, en admiration devant qui Dieu est et ce qu'il a fait pour nous? Sinon, à quelque part, ça l'indique un manquement de notre part. Et quel est ce manquement, selon vous? Moi, je dis que c'est notre responsabilité de prier pour l'onction du Saint-Esprit, mais c'est facile de dire ça sans nécessairement sentir le besoin. Vraiment demander à Dieu tous les jours de la semaine, en préparation du dimanche, de vraiment être prêt Donc, en esprit, Seigneur, donne-moi d'être ouvert, de comprendre que tu te sers d'un instrument pour me parler. Il parle, bien sûr, à tout le monde, mais il faut vraiment personnaliser l'approche. Seigneur, donne-moi l'onction du Saint-Esprit pour que j'entende ce que tu as à me dire et quel est l'impact que cette chose-là doit avoir dans ma vie. Alors, l'émerveillement. Si on vient au culte, et que, par disons, on va prendre l'exemple tout à l'heure qu'on a pris des galaxies, puis les milliards d'étoiles et tout ça, et si ça l'amène notre esprit à dire, waouh, c'est ça. C'est ça que ça devrait nous faire, tout le temps, à toute fois, chaque fois qu'on entend un sermon. Ensuite, est-ce que c'est tout? La soumission? L'obéissance? Autrement dit, si vous venez ici un dimanche matin, vous entendez un sermon, il y a une application à la fin de tout sermon, il devrait y avoir des applications. Qu'est-ce que ça veut dire une application? Ça veut tout simplement dire un principe que vous devriez d'appliquer, ça le dit application, appliquer dans votre vie pour un changement. Si on assiste à un culte et qu'on ne retient pas un principe pour éventuellement changer notre vie, bien, on est allé au culte quasiment pour rien. Parce que Dieu, il ne se sert pas des sermons juste pour remplir le temps. Il veut vous dire quelque chose sur lui, sur son œuvre, sur le Saint-Esprit, sur le péché, sur plein de choses. Mais il veut que quand vous sortiez, vous soyez meilleur que quand vous êtes entré. Donc, ça implique la soumission et l'obéissance. À un moment donné, si le Seigneur se sert d'un prédicateur pour vous dire quelque chose, ça peut vous déplaire des fois. Parce que des fois, il y a des choses qui se font que ça peut être un reproche, ça peut être une réprimande. Et on le sait, on n'est pas fort sur les reproches, on n'est pas fort sur les réprimandes. Mais pourtant, des fois, c'est nécessaire. Et la soumission, c'est tout simplement reconnaître, oui, tu viens de nommer un point sur lequel je suis manquant, mais il faut que ça change. Parce que Dieu veut que ça change. Alors, nous devons nous préparer à adorer et consacrer du temps au Seigneur. Lorsque tous les éléments sont présents, amour, admiration, émerveillement, soumission et obéissance, là, on est en véritable adoration. On se rend compte que dans ce qu'on dit être de l'adoration, des fois, c'est plus ou moins adoration. Alors, lorsque tous les éléments sont présents, le feu du Saint-Esprit nous propulse dans la lumière incandescente et la chaleur des qualités infinies du Seigneur. On répète. Le feu du Saint-Esprit, quand tous ces éléments-là sont présents, le Saint-Esprit nous propulse dans la lumière incandescente et la chaleur des qualités infinies du Seigneur. Autrement dit, l'Esprit fait en sorte que... Wow. L'adoration, c'est vraiment un gros « wow », avec un gros « W », un gros « O », et un autre gros « W », et un gros point d'exclamation au bout. On est censé de... s'émerveiller devant la grandeur de Dieu, ses perfections et ces choses-là. Troisième chose, troisième point, on était rendu au troisième point, l'adoration, sa préciosité. Autrement dit, l'adoration, est-ce qu'on peut pas la faire? C'est précieux. Si c'est précieux, vous ne laissez pas traîner vos choses précieuses chez vous, n'importe où, sur le bord d'une table dehors, que le monde peut le ramasser. Quand c'est précieux, on... attention, on le met à quelque part pour que le monde vienne s'en emparer. La préciosité de l'adoration. L'adoration biblique et authentique est précieuse d'une manière ineffable. Connaissez-vous le mot ineffable? On ne peut pas vraiment donner tout ce qu'on devrait dire sur le sujet. Ineffable, ça veut dire qu'on ne peut pas épuiser le sujet. Alors, c'est précieux d'une manière ineffable pour les raisons suivantes. Première raison, on en a trois. La première raison, elle est précieuse à cause de ses effets sur notre âme. L'adoration faite correctement a un effet sur notre âme. Pour vous démontrer cela, je ne sais pas si vous avez déjà lu des biographies de grands hommes et de grandes femmes de Dieu. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de le faire. Parce que quand vous le faites, vous vous rendez compte que certaines personnes ont mené des vies chrétiennes exceptionnelles. Et là, on est porté à se dire, ben là, ça, c'est pas moi. Moi, je suis pas un chrétien exceptionnel. Mais si t'es pas exceptionnel, c'est peut-être parce que tu cherches pas à être exceptionnel. Parce que c'est tout à notre portée. On peut tous être exceptionnels. Alors, quand on regarde des GR spirituels chrétiens, je vais vous en nommer quelques-uns, je sais pas si vous les connaissez. William Burns, ça, c'est un gars qui est allé avec, en Chine, avec, comment il s'appelle, notre ami, non, pas Karen, en tout cas, pas grave. Robert Murray McChain, c'est un autre qui est mort jeune, mais sa vie chrétienne, l'intensité de sa vie chrétienne, la pureté de sa vie chrétienne, la sainteté de sa vie chrétienne, exceptionnelle. Un autre, Jonathan Edwards, je ne sais pas si j'avais déjà entendu, les choses de Dieu en colère, là. Il est reconnu par ce sermon-là. C'est un des plus grands sermons, les plus connus de toute la terre, de tous les temps. Et ce qui est drôle, hein, pour Jonathan Edwards, semble-t-il que quand il prêchait, il n'avait pas une voix très forte et il lisait ses sermons. Mais l'esprit était tellement puissant dans ce qu'il disait qu'il y avait pas qu'un monde qui se convertissait. Ça venait de où, ça? Sa voix? Sa préparation, ou que l'esprit soulignait ce qui se passait. Un autre, David Brenner. David Brenner, c'était le gendre de Jonathan Edwards. Lui, il a évangélisé les Indiens, mais imaginez-vous, dans les années 1700, à voyager dans le bois, à prier des heures de temps jusqu'à faire fondre la neige autour de lui, des heures et des heures. Mais qu'est-ce qui rendait son ministère puissant? Mais l'Esprit de Dieu, la proximité avec Dieu, l'adoration quotidienne dans tout ce qu'il fait chaque moment de la vie. Alors, ce furent des hommes et des femmes qui sont devenus intensément conscients de la réelle présence de Dieu dans leur vie et qui ont maintenu cet état-là dans leur vie par la prière. Psaume 105, versets 3 et 4, « Glorifiez-vous de son saint nom. » Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Quelqu'un qui adore, dans la façon dont je vous ai dit tout à l'heure, avec amour, admiration, émerveillement, soumission et obéissance, qui fait ça de façon constante, ça c'est chercher la face de Dieu. Si tu fais ça continuellement, pensez-vous que Dieu va vous cacher sa face? Il va vous donner des échantillons de sa puissance. Il va vous donner des échantillons de sa bonté. C'est pour ça que ces gens-là, pourquoi leur prière était puissante? Parce qu'ils menaient une vie d'adoration intense et sainte, une vie sainte. Alors, peut-être que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est peut-être justement une vie d'adoration comme ces gens-là avaient, et une proximité avec Dieu et une soumission comme ces gens-là avaient. J'aime bien Jérémie 29, verset 13. Jérémie 29, verset 13, je l'ai sur mon bureau, c'est en face de moi, à tous les jours. Ça dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Est-ce qu'on cherche Dieu de tout notre cœur? Et l'Éternel, voyez-vous, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça implique que je le cherche. Si je cherche Dieu, il va me donner de se révéler à moi. Je vais être plus proche de lui et en étant plus proche de lui, plus saint, plus une adoration réelle, ma puissance, pas ma puissance personnelle, mais Dieu, on le sait, il va exaucer plus quelqu'un qui mène une vie dans la sanctification intense que quelqu'un qui mène une vie de chrétien médiocre. N'est-ce pas? Deuxième raison pour laquelle c'est précieux, donc la première, c'est parce que ça a des effets sur notre âme et les effets sur notre âme sont des effets bénéfiques. La deuxième, elle est précieuse à cause de la joie et de la satisfaction qu'elle apporte. Voyez-vous le psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta droite. Autrement dit, l'Éternel est en train de nous dire que quand il y a une véritable adoration, ça l'amène de la joie dans nos cœurs. J'aime bien en anglais. Vous la nommez en anglais, parce que je trouve en anglais, je trouve ça plus fort un petit peu. Il dit, « Thou will show me the path of life in thy presence, dans ta présence, is fullness of joy. » Autrement dit, il est en train de nous dire que si on adore correctement, devant lui, devant sa face, il y a une plénitude de joie. Fullness. Plein. C'est plein. La joie n'est pas une petite joie passagère qui va s'en venir deux minutes après. Si on s'habitue d'adorer correctement, quotidiennement, dans toutes les parties de notre être, il va y avoir de la joie dans nos cœurs. Et c'est lui qui le dit, pas moi, là. Thou will show me the path of life in thy presence is fullness of joy. At thy right hand, there's pleasures forevermore. Oui, il parle de deux choses. Il parle de fullness of joy, plénitude de joie. Et ensuite, il dit, there are pleasures, au pluriel, il y a des plaisirs evermore, ça veut dire qu'il y en a que c'est inépuisable. Alors, il n'existe pas de joie plus pure, de joie plus profonde et plus haute que celle qui vient de la contemplation et de l'adoration de Dieu. Nous pouvons trouver de la beauté et de la joie dans des paysages, beaux parfois à vous couper le souffle. Vous avez sûrement déjà vu quelque part, on voit quelque part des fois sur le bord d'une montagne, des couchers de soleil, des levées de soleil, des arbres, des fois. Là, moi, je me souviens d'une fois en particulier, je vais vous raconter l'effet que ça avait fait. J'avais été me promener dans le Maine, dans l'État du Maine, au mois de septembre, au moment où les feuilles sont d'une beauté, là, c'était vraiment, ça vient te chercher tellement c'est beau. Et ce coin-là du Maine, c'est très montagneux et des petites routes tortueuses. Et chaque côté du chemin, il y a beaucoup d'étangs et de petits lacs. Et tout ça, ça reflète dans le lac, surtout c'était un dimanche après-midi, puis un samedi après-midi. Il faisait tellement beau. Pas de farce, on est revenu à la maison. On a passé là peut-être 4 heures. Quand tu dis là, que tu es rempli de la beauté de la nature, on revient là, on dirait qu'on est étourdi par la beauté tellement il y en a. On a tous connu ça quelque part. Des montagnes, des fleurs, des arbres. Une autre fois, quand je suis allé en Colombie-Britannique, j'ai vu ces immenses arbres. Tu te mets à côté de ça, tu as l'air d'un nain. C'est assez gros l'arbre qui peut faire passer un auto dans son... Quand on assiste à des choses comme ça, c'est vrai qu'on ressent dans notre âme de la beauté. Mais la beauté de la nature, comparativement à la bonté de Dieu, c'est vraiment des petites joies, des petites beautés, parce que le Seigneur est beaucoup plus beau que ça, beaucoup plus grand que ça. L'observation du ciel, tout à l'heure, Jean parlait je me souviens d'une fois, à Lac Mégantic, ils ont fait l'observatoire, ils ont mis ça dans le petit village de Notre-Dame-des-Bois. Et une fois, je suis allé dans un village d'un ami qui restait dans un petit village près de Notre-Dame-des-Bois. Et je suis allé là l'hiver. Et l'hiver, on sait qu'il fait noir de bonne heure. J'avais été là, disons, vers 6 heures le soir. Je regardais le ciel, pas de farce, là. Je devais avoir une quarantaine d'années, peut-être 50, je ne me souviens pas, ça fait plusieurs années. J'avais jamais vu ça de ma vie. Parce que le phénomène, c'est que quand on reste dans des villes, ils appellent ça la pollution de la lumière des villes. On ne le voit plus. Mais quand on va dans des petits villages comme cela, qui sont vraiment éloignés des centres, on regarde le ciel avec un autre œil, mais complètement différent. On les voit, les étoiles. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous émerveille. On peut être émerveillé devant la beauté d'une œuvre d'art, ceux qui aiment les arts, ou qui aiment la musique. On peut être émerveillé à écouter de la musique. Mais toutes ces choses-là, ça nous apporte des joies temporaires, terrestres, qui ne durent pas. Mais quelqu'un qui s'habitue à adorer Dieu tous les jours de sa vie, il le fait avec l'esprit qu'on a parlé tout à l'heure, amour, émerveillement, admiration, soumission et obéissance, Ça va l'emmener à un état le plus... Qu'est-ce qui est arrivé avec ces gens-là que je vous ai nommés tout à l'heure, les noms? C'est de valeur qu'on ne puisse pas avoir le temps de développer un peu autour de la vie de ces gens-là. La caractéristique de ces gens-là, c'est qu'ils menaient une vie comme si Dieu était présent, mais de façon constante. C'est comme une prise de conscience que Dieu est toujours présent, peu importe où tu es, peu importe ce que tu fais. Et ils avaient une conscience aiguë de cela. Et constant. Ça change toute ta vie. Parce que Dieu, c'est pas juste un Dieu du dimanche. C'est un Dieu de toute la vie, un Dieu de tout instant. Certainement qu'il n'y a pas de joie plus sainte, plus profonde pour une âme que l'adoration de Dieu. Ne demandant rien, ne cherchant rien, mais étant absolument et pleinement rassasié par le Seigneur lui-même. Voyez-vous, l'adoration, c'est pas... On n'est pas devant Dieu pour dire, comme disent les Anglais, ma belle leur expression, il dit, quand on prie, il dit, des fois, il faut arrêter de dire « gimme, gimme ». En anglais, « gimme, gimme », ça veut dire « give me, give me, give me ». On est toujours en train de demander quelque chose, et c'est correct, on a le droit de le faire. Non seulement on a le droit, mais on a le devoir. Mais souvent, c'est qu'on ne reste pas assez souvent dans la présence de Dieu juste pour apprécier qui il est. Lui laisser le temps de venir parler à nos âmes. C'est ça qui manque parfois dans nos vies. Tozer, qui a fait des livres sur l'adoration, je crois que c'était une personne qui connaissait vraiment son sujet, il a dit que l'adoration avec Dieu est tellement délicieuse qu'elle dépasse toute capacité d'expression. Vous, tout à l'heure, on utilisait le mot ineffable. C'est ce que ça veut dire, ineffable. C'est que quelqu'un qui a commencé à goûter à ces types de joie-là, comment qu'il voudrait l'expliquer à un autre, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Alors, c'est ça qu'il disait. Psaume 25, versets 12 à 14. « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. » Verset 14, ça c'est le verset qui me renverse chaque fois que je le lis. « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. » Quand vous prenez la version Darby, dans le bas, il dit que tu aurais pu traduire la première partie, l'amitié de l'Éternel, par le fait que l'Éternel se communique à toi d'une façon intime, les communications intimes de l'Éternel. Là, il faut s'arrêter, parce qu'on ne peut pas dire les communications intimes et ne pas ressentir rien. Si, après avoir regardé l'ensemble de ce qu'on disait tantôt, qui Dieu est, qu'on s'est repenché et on a regardé sur notre misère, et il est en train de nous dire que si on craint Dieu et qu'on le cherche à face tout le temps, il va y avoir des communications intimes. Quand tout à l'heure, notre ami Tozer disait que ça dépasse toute capacité d'expression, moi je le prends au mot, là. Je le crois. Parce que les communications intimes avec Dieu, si je vous disais, levez donc la main, ceux qui l'ont connu, on va laisser faire. Mais les communications intimes avec Dieu, c'est quelque chose de tellement grand, de tellement intense, de tellement glorieux, de tellement merveilleux, qu'on n'a pas vraiment idée de ce que ça veut dire. Pourtant, est-ce que c'est à notre niveau? Est-ce qu'on peut atteindre ce niveau-là comme chrétiens, nous ici, présents? Oui, on peut l'atteindre, parce qu'il nous dit que la raison, la prérequis, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est s'éloigner du péché, c'est chercher sa face, c'est se sanctifier, c'est se purifier, c'est chercher à l'adorer en tout temps, en toute chose, par tous les moyens qu'on connaît. Autre raison, et la dernière, elle est précieuse à cause des effets sur l'âme, elle est précieuse à cause de la joie et de la satisfaction qu'elle apporte, et la troisième, elle est précieuse parce qu'elle glorifie le Seigneur. Voyez-vous, dans la question 4 du catéchisme baptiste réformé que Pascal Denot a traduit, je l'ai pris mot pour mot, là. La question 4, ça dit « Quel est le but principal de l'homme? » Donc, C'est ton but, c'est ton but, c'est ton but, c'est ton but. C'est le but de tous, ici présents. Il dit, le but principal, la réponse, le petit catéchisme, c'est fait pour les enfants, ça. On est des enfants encore. Il dit, le but principal de l'homme est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui sans cesse. Mais, des fois, dans des catéchismes, il y a des réponses, il y a des questions qui sont tellement profondes qu'ils nous dépassent. Même si c'est fait pour les enfants, est-ce que on pense qu'on comprend ce qui est dit ici? Le but principal de l'homme est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui sans cesse. C'est ça notre but, le but de notre vie. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. J'aime bien le verset parce qu'il nous dit, il est en train de nous dire, toutes les actions qu'on fait peuvent avoir un effet d'adoration. Il dit, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. » Il est en train de dire, « Toutes les actions de ta vie, que tu manges, que tu boives, que tu dormes, que tu fasses la vaisselle, peu importe. » Il dit, « Soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Est-ce que vous croyez qu'un verset pareil peut changer notre façon d'être? Par exemple, j'aime pas faire le ménage. Ça m'écœure faire le ménage, disons. Disons que c'est votre cas. Puis, vous aimez pas faire la vaisselle. Puis, vous aimez pas, bien des choses. On peut mettre une liste presque interminable. Pensez-vous que si vous appliquez ce verset-là, que ça change quelque chose dans votre vie? Parce que ça dit, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Si tu fais ta vaisselle pour la gloire de Dieu, est-ce que vous allez le faire dans le même état d'esprit? La vaisselle, gna gna. Ou bien non, si vous dites, Seigneur, on ne peut pas dire que je suis très fort sur faire la vaisselle, mais je le fais pour toi. Ça change tout. Ça change notre approche, notre attitude. Et Romains 11, 36, un verset que j'aime, c'est mes versets préférés de toute la Bible. Romains 11, verset 33-36, moi, j'aime ces versets-là beaucoup. Et le verset 36, de façon particulière, il nous rappelle des principes. C'est de lui, la source, par lui, le moyen, pour lui, la direction, le but final, que sont toutes choses. À lui, la gloire dans les siècles. Amen. C'est un verset qui dit tellement de choses en peu de mots. Tout ce qui arrive vient de lui, et les moyens par lesquels les choses arrivent, c'est lui aussi. Et le but, ça retourne vers lui. Tout. C'est vraiment un verset merveilleux. Psaume 113, versets 24 à 25. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre au ciel ai-je que toi? Et regardez bien le verset 25. Êtes-vous capable de vous l'appliquer à vous aujourd'hui? Quel autre au ciel ai-je que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mais là, c'est profond, ça. C'est en train de dire que sur la terre, le seul plaisir qu'on se devrait de prendre, qui est vraiment qui nous amène une satisfaction profonde, c'est quand on va le chercher dans le Seigneur lui-même. Alors, on est rendu aux applications. On va tirer trois applications de tout cela. Notre relation avec Dieu a vraiment grandi lorsque nous avons passé du stade de la demande, de l'intercession, de l'action de grâce, à celui de l'admiration, de la contemplation, de l'émerveillement et de la communion quotidienne avec le Seigneur. Là, je vais vous poser une question. À quel stade vous situez-vous présentement? Demande, intercession, action de grâce, c'est correct. Mais on va aller un petit peu plus loin quand on va tomber dans l'admiration, la contemplation et l'émerveillement et la communion avec Dieu. Deuxième application, implorons l'aide du Saint-Esprit pour adorer convenablement. Voyez-vous, ça fait des années que je suis chrétien, puis quand j'ai repris conscience de cela, ça ne te tente pas de prier, demande l'aide du Saint-Esprit. Ça ne te tente pas d'adorer, demande l'aide du Saint-Esprit. Ça ne te tente pas de mortifier ton péché, demande l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui agit en nous, à travers nous. Alors, préparons nos âmes par la prière intense, la confession des péchés et l'authentique mortification et la repentance de nos péchés. Recherchons ensuite la face du Seigneur et nous le trouverons. Troisième application, trouvons-nous nos plaisirs terrestres en lui? Dieu est-il la source exclusive de nos plaisirs spirituels? Que l'Éternel nous sonde et nous fasse la grâce de la croissance et d'une meilleure proximité avec lui. Que notre grand et glorieux Seigneur soit béni, loué et adoré éternellement par sa grâce et pour sa gloire.